Hey, salut, c'est les Vrigoles.
On est sûr.
C'est vrai, on est sur Kitchenette même en 2026, figurez-vous. Alors, et pour Kitchenette saison 17, on a troqué la mobilette pour une vintage estafette avec manche-disque chromé gourmette, plein de sons d'une autre planète. Décollez donc vos étiquettes et comme le dit notre vedette Thomas Croisière...
Embarquez pour un océan de rire avec Thomas Croisière.
Bon, très bien. Avec la neige qui est tombée, ça risque de déborder un petit peu, la fonte des glaces, tout ça. Mais c'est pas grave, hein. Tel DiCaprio, on s'accrochera au rocher. Allez, top générique.
Chanter, c'est ma vie. Chanter, c'est ma passion. Je chante pour mes amis, je chante un peu à l'église, lors des mariages, vous voyez, c'est tout à fait amateur. Et on m'a convaincu de faire un disque, alors c'est un peu en quelque sorte, comment dire, une consécration, j'en suis très fier.
Kitchenette, la musique côté obscur.
J'espère que ce petit florilège de morceaux combien fameux, il y en a pléthore d'autres, mais il fallait faire un choix. Et voilà, et disons place à la musique.
On aura des belles choses détox, entre guillemets, à grignoter juste après ces fêtes. En tous les cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la 501e émission de Kitchenette, la musique côté obscur, déjà, ça ne nous rajeunit pas. 501 émissions avec une équipe un peu réduite pour la première de l'année 2026. Elle est là, elle nous revient. Elle, on peut dire qu'elle a fait, entre guillemets, un régime assez spécial. Elle a décidé de manger des pommes, c'est un peu son serment, le serment du jeu de pommes. Je crois qu'on retrouve dans le film signé Furax, dont est extrait cette chanson, c'est Julia avec nous. Ciao Julia, comment ça va?
Ça va, bonne année.
Bonjour, comment on dit déjà bonne année?
Buon anno.
Buon anno, Giulia.
Buon anno à vous tous.
Tout s'est bien passé, le début d'année se passe bien, Giulia, avec vous?
Ça va, ça débute doucement.
On attend également notre rapporteuse du Kitsch qui nous a rapporté également des belles choses cette semaine. Lucie va être avec nous dans un instant. Et puis, notre invité, j'ai l'impression que ce titre ne lui est pas étranger. Ça fait partie des comédies qu'il met en avant dans le spectacle Voyage en comédie. Ça fait partie des titres qu'il a découverts et ça tombe bien puisque les couverts, ça lui sert pour manger. Ça aussi, je crois que c'est une référence dans Signé Furax. C'est Thomas Croisière avec nous et on applaudit très fort, même si on n'est que deux.
Oui, mais vous avez quatre mains à vous deux. Donc
Voyage
très, très
en comédie en applaudissement. Bonjour Thomas et bonne année, comment ça va?
Eh ben, ça va super bien, surtout qu'on vient d'écouter le Reggae Babu, ce titre des années 80 qui est un vrai bonheur à base de des figues, des bananes, des noix dont j'ai le 45 tours.
Vous l'avez.
Et qui est effectivement dans ce film merveilleux qui s'appelle Signé Furax de Marc Simenon, le fils de Georges Simenon, le papa de Maigret, et dans lequel il y a une avalanche de jeux de mots absolument navrants. Et j'ai mis très longtemps à comprendre ce qu'il disait. Tu sais, au début, ils disent « Chaviro, ro tantacha, chami pataro, ro brûla patacha ».
Beaucoup de rots et beaucoup de chats.
Ben oui, parce que ça parle de chats et de rôtis. Mmh. Et c'est une petite histoire, c'est un chat qui voit donc un rôti. Chat viro, rot tenta chat, le rôti tenta le chat. Chat mi pataro, donc il mit sa patte sur le rôti. Rot brûla patte à chat.
Thomas, on rappelle également que Furax, au départ, c'est une histoire radiophonique de 30 ans avant. C'était Pierre Dac et Francis Blanche. C'est ça qui est dingue, tout nous revient à la radio finalement, même quand on parle de cinéma.
Ben oui, c'était pour moi le plus grand feuilleton radiophonique de l'histoire. Et puis Pierre Dac et Francis Blanche, entre L'Os à moelle ou plein de choses qu'ils ont pu faire et des sketchs ensemble. Et puis derrière, la carrière au cinéma de Francis Blanche, c'est tout un pan de la culture et du rire et de la comédie populaire qu'on peut partager avec des choses parfois affligeantes et des choses d'une brillance exceptionnelle.
Et donc on te reçoit, Thomas, pour ce qui était une chronique radiophonique et qui est devenu un spectacle Voyage en comédie, volume 1 et volume 2. C'est un spectacle en deux volumes, mais le deuxième ne s'appellera plus forcément Voyage en comédie.
Non, bien sûr que non. Il va s'appeler La comédie contre-attaque.
Ah oui.
En hommage à une des plus grandes suites de l'histoire du cinéma, qui est donc L'Empire contre-attaque, donc l'épisode 5 de La guerre des étoiles, qui pour moi est un très grand film. Et donc, dans ma toute grande humilité, j'ai décidé d'appeler le mien La comédie contre-attaque. Et ce sera une suite qui traitera des suites au cinéma. Je suis en train de travailler dessus. Je le joue pour la première fois à Saint-Étienne le 19 février. Donc c'est quasiment demain et j'ai hâte de le montrer au public.
Donc vous pouvez l'applaudir dans Voyage en comédie le premier, La comédie contre-attaque le deuxième. Un spectacle dont on parlera, qui est bourré de références qui vont vous faire plaisir, qui vont vous faire découvrir des films de comédie qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on connaît par cœur mais dont on ne connaît pas tous les petits recoins, toutes les petites surprises. Et puis ce spectacle en lui-même est une surprise. C'est... vous n'avez jamais vu un spectacle comme celui-là, on peut le dire.
Moi-même, je n'avais jamais vu spectacle avant de le faire.
Et peut-être même que vous découvrirez Thomas Croisière si vous le connaissez autrement que ce que vous l'aviez connu précédemment. On va parler de ce spectacle, on va citer différentes dates. Et puis il y aura, je crois, quelques extraits, on en a entendu un. Et puis à la fin, on sera mis en contribution. Vous allez chanter, mais pas seulement, nous aussi, c'est vrai. Qu'est-ce qui va se passer?
Ça va être la première diffusion mondiale d'un futur tube qui s'appelle La comédie contre-attaque, dont je suis l'heureux auteur-compositeur et qui n'a rien à envier au Reggae Babu. Je crois que c'est quelque chose, cette émission s'appelle Kitsch et Net. Je pense que je suis parfaitement dans la promesse de ce que vous proposez chaque semaine.
Dans quelques secondes maintenant, de quoi est-ce que vous allez parler, Giulia?
Quand les chansons de cinéma cachent des histoires qu'on connaît pas.
Évidemment, on aura la vidéo Kitsch tout à l'heure avec Lucie. Ça sera aussi un petit lien avec le cinéma et la chanson. Et puis, la rubrique des inavouables, la rubrique des inattaquables. On a tous participé, y compris Thomas, qui fait son entrée également dans le Art Kitsch.
Je suis très honoré.
Mais pour l'heure, puisqu'elle en a parlé, on va commencer par la première rubrique de l'émission. C'est avec Giulia, c'est la News Kitsch.
Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? C'est la News Kitsch.
Alors, j'ai décidé de raconter quelques petites anecdotes, curiosités sur trois comédies musicales que moi j'adore. Alors, la première, on parle de My Fair Lady. Je ne sais pas déjà si vous connaissez bien cette comédie musicale.
Ah bah, c'est un chef-d'œuvre de Georges Cukor avec Audrey Hepburn.
Demande, on ne sait jamais.
8 Oscars, c'est un formidable film, mais vous n'étiez pas né, moi non plus.
Voilà.
Mais il est formidable.
Et figurez-vous, moi je suis très déçue par cette chose-là, qu'Audrey Hepburn, elle ne chantait pas. Pour moi, ça a été une vraie déception parce que la chanson en question, c'est I Could Have Danced All Night. Ouais. Et quand j'ai découvert que Marnie Nixon avait doublé la voix et que Audrey Hepburn, elle a été obligée, elle a vécu ça comme une trahison, que toutes les chansons ont été doublées par cette femme.
Et donc elle a fait un lip sync. Mais tu sais, c'est la même chose avec Podane. Dans Podane, c'est
Catherine Deneuve a été beaucoup doublée.
C'est ça, exactement.
Mais ce qui est très marrant, c'est que Jacques Perrin, ça n'est pas lui qui chante, qui joue le prince. Celui qui chante, c'est Jacques Revaux, qui a arrêté la chanson. Plus tard, est devenu un compositeur. C'est lui qui, entre autres, a écrit My Way. Enfin, comme d'habitude, c'est lui qui a écrit Les Lacs du Connemara, etc.
Et le deuxième, c'est Come What May. Désolée pour ma prononciation horrible. C'est Moulin Rouge. C'est une autre curiosité, mais je ne savais pas. Nicole Kidman, elle s'était cassée des côtes lors du tournage. Et donc, elle a enregistré pratiquement toutes les chansons allongées. Voilà, en plein douleur. Et on l'entend très bien parce que la voix pendant
Elle est un peu étouffée, la voix.
On entend bien le souffle un peu suspendu, un peu en douleur, quoi. Voilà.
Ouais, on sent la souffrance.
On sent la souffrance dans la chanson.
C'est vrai. Mais au moins, allongée, elle libère la colonne d'air et c'est déjà pas mal.
Ouais.
Mais c'est ce que j'entendais dire André Manoukian. Il disait, il faut libérer la colonne d'air quand on chante.
Elle a bien libéré, là.
Était-elle allongée sur le dos? Non, difficile. Allongée sur le côté, peut-être mieux pour chanter.
Pour chanter, j'imagine.
Sur le ventre, bon, c'est carrément possible. Justement, le troisième titre que vous avez choisi pour
Singing
illustrer le troisième film.
Rain.
Ah, bah oui, bah ça.
Jane Kelly.
Oui, bah ça, on
1952. Et ce qui est intéressant, c'est que Jane Kelly, pendant la scène très joyeuse où il danse sous la pluie, et bah, il avait la fièvre à 40. Il était très malade. Et il a continué à tourner. Voilà, ça fait plaisir de connaître tous ces petits. Histoires derrière.
La grande histoire.
Surtout les comédies musicales, on voit souvent, enfin, on ressent souvent la joie, la légèreté, et derrière, on a des efforts, de la douleur aussi.
Et puis, Chantons sous la pluie est un formidable film qui parle de cinéma, puisque c'est l'histoire du passage du muet au parlant, et justement, cette difficulté qu'ont eu certains comédiens à exister, parce qu'ils jouaient à l'image, mais ils n'avaient pas nécessairement la voix, et c'est très, très drôle. La scène du corset où elle a son micro coincé dans son corset, puis elle fait non, 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 oui, oui, oui. Elle n'arrête pas de tourner la tête. Mais donc, elle n'a plus l'écoute du micro. C'est hyper drôle.
Ouais. La fameuse comédienne qui a une voix horrible. Qui est doublée par la.
Je ne comprends pas.
Ouais. J'adore.
Mais j'adore ce film. Qui n'a pas du tout marché à l'époque. Hein. C'est devenu un classique bien des années plus tard.
La télé a fait beaucoup.
Box-office.
Comme beaucoup de films.
Pour conclure, Julia, est-ce que vous encouragez les comédiens à chanter? Vous-même, comédienne,
Je danse plutôt, mais. J'aimerais tellement apprendre bien à chanter.
Moi qui ai une passion, un vice qui s'appelle le karaoké, fondamentalement, bien chanter, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de le faire avec le cœur. Et si tu prends du plaisir, évidemment, si tu te mets à chanter l'envie de Johnny Hallyday, jamais tu seras au niveau. Mais si tu le fais avec le cœur, bah, il se passera toujours un truc.
Exact.
Et elle a chanté, elle a dansé sous la pluie, et elle aussi, elle s'est mise à faire des recherches, et elle a recherché si la neige fondue faisait de la boue ou déjà du verglas. On va lui souhaiter une très très bonne année. C'est Lucie, la rapporteuse du Kitsch, représentante de l'équipe historique de Kitchenette. Bonjour Lucie, comment ça va? Bonne année.
Salut Olivier, salut tout le monde. Merci, bonne année à tout le monde.
Puisqu'on est tous réunis d'ailleurs, tradition oblige, est-ce qu'on se ferait pas un petit bonne année à 4 et à 3, histoire que tout de suite l'année commence bien? Alors si on vous dit à 3, 1, 2, 3.
Bonne année!
Voilà. Ça fait pour la 17e saison qu'on fait ça. Alors Lucie, je ne sais pas comment se sont passées les fêtes, si toi-même tu t'es mis aux pommes, si tu en as fait le serment du jeu de pommes, je l'ai placé pour Julia, je le place pour toi, ou si tu as pris des bonnes résolutions pour cette année 2026 tout simplement.
Je ne connais pas le jeu de pommes, j'ai passé de bonnes fêtes. Alors c'est jamais très reposant les fêtes de fin d'année, mais c'était très sympa. beaucoup manger, beaucoup. Et écoute, des résolutions, non, j'ai arrêté d'en faire en fait. Dépasser la vingtaine, j'ai arrêté.
Donc tu as passé la vingtaine, hein, c'est une information. Et alors, on va te retrouver dans la vidéo Kitsch dans quelques secondes. Ce sera une vidéo aussi en lien avec le cinéma, comme le spectacle de notre invité.
Mais tout ça est très cohérent, hein.
J'ai l'impression,
bossé,
oui,
les gars. Hein.
Tout à fait, on se renseigne aussi un petit peu quand même. Pas essentiellement de chansons au départ, mais quand même de cinéma, tout à fait.
Très bien.
Une icône surtout.
Icône avec un accent sur le O, c'est donc dans la deuxième rubrique de l'émission, c'est-à-dire la vidéo Kitsch.
Vous connaissez les images, voici toute l'histoire. Vidéo Kitsch.
Je vais parler de l'icône bébé. Vous connaissez ses initiales. Il s'agit de Brigitte Bardot, qui était évidemment magnifique à tout point de vue. Et dans son jeu d'actrice, et dans sa beauté, et dans la voix, on la connaît beaucoup quand elle a chevauché une Harley Davidson. Donc je vais vous laisser écouter cette chanson pour ceux qui ne connaissent pas ou qui voudraient juste pour le plaisir la réécouter. Et j'en dis plus juste après.
Allez, ça va faire fondre la neige un petit peu, c'est tant mieux.
Kitchenette, l'émission qui réveille le kitsch sans jamais prendre de pincettes.
Non, mais elle était toute gentille avec ses animaux. Elle ne les aurait jamais traités comme ça, même les coqs, hein, puisque c'était une amoureuse des animaux, Brigitte Bardot, rappelons-le quand même.
Alors, en fait, elle aimait beaucoup les animaux, effectivement, mais elle est montée donc, sur cette Harley Davidson que Serge Gainsbourg, je décris plus Serge Gainsbourg, tout le monde le connaît, il a écrit et composé cette chanson en 1967. Alors qu'il était en pleine liaison avec la chanteuse qui elle-même était mariée. Voilà pour les petits.
Mais c'est d'ailleurs pour elle qu'il avait écrit « Je t'aime moi non plus » et la première version enregistrée.
Oui.
Et elle s'est opposée, même s'il avait enregistré à ce que ça sorte, pour préserver son mariage.
Exact.
Et c'est pour ça qu'il l'a réenregistrée avec Jane Birkin. Mais il l'a composée en une nuit avec elle, nue sur son piano. Il y avait une très belle pièce de théâtre qui racontait ça.
« Je t'aime moi non plus » qui est ressorti, je crois, dans les années 80, la version avec Bardot, du coup, quand
bien
même.
Sûr. Voilà, 86, il... c'est redevenu numéro 1. Et en particulier, c'est un titre qui était numéro 1 en Angleterre. Il y a eu,
dans le pays de Jane Birkin.
Il y a eu Christophe et il y a eu « Jordi, il y a eu Vanessa Paradis, oui Jordi, bah oui, dur d'être un bébé, a été numéro 1 en Angleterre.
Mais j'ai même lu d'ailleurs que c'était une question de timing là, sur, parce qu'en fait au moment où Brigitte Bardot aurait dit à Gainsbourg, bon finalement je veux bien que tu la diffuses, ben c'était déjà trop tard, Jane Birkin venait de la chanter et ça faisait un carton déjà sur les ondes.
Bah oui parce que c'était voilà. Interdit, il y avait ce côté bah, sulfureux de cette chanson interdite.
Ah bah un peu oui. Elle a quand même enfilé son short, ses cuissardes, parce que pour ceux qui n'auraient pas encore vu le clip ou qui ne visualisent pas le look de Brigitte Bardot, elle est évidemment magnifique. Elle a un petit short et elle monte sur une Harley Davidson avec ses énormes cuissardes, sa beauté incroyable et chevaux au vent. Voilà, cette Harley Davidson avait été prêtée d'ailleurs par le mécanicien de John Hallyday.
Voilà. D'accord.
Tout est lié.
En tout cas, voilà, donc c'est des paroles qui vrombissent un peu, voilà, comme on peut l'entendre là. Et donc, bah, je pense que tout le monde succombe à tous ces charmes, que ce soit ceux de la chanson ou de Brigitte Bardot, homme ou femme.
Thomas, Voyage en comédie, c'est un spectacle. C'était avant des chroniques radiophoniques, on peut le citer, hein, pour France Inter l'été, pendant deux étés, hein, c'est
oui, bien
ça.
Sûr.
Qui sont maintenant mises en images sur YouTube. Pas toutes, mais elles arrivent au fur et à mesure sur YouTube. Combien vous en avez fait vous avez tenu la comptabilité en tout
cas ? J'ai fait 80 chroniques, puisque c'était deux saisons d'été, donc c'est 40 jours, puisque c'était du lundi au vendredi à 8h55. Et là, j'ai monté une cinquantaine de chroniques, et c'est tous les mercredis à 18h18 sur ma chaîne YouTube. Il y a un nouvel épisode.
Des films avec Bardot, vous en avez fait ? Bon, elle n'a pas joué dans beaucoup de comédies, mais il y en a eu deux, trois quand même.
Alors, dans Voyage en comédie, non, mais j'avais rendu hommage à Brigitte Bardot dans une chronique qui parlait du cinéma de 1956, puisque c'est l'année de Et Dieu créa la femme. Et c'est une année très importante pour le cinéma au féminin, parce que tu as à la fois les jambes de Marilyn Monroe dans Sept ans de réflexion, vous savez, sur cette plaque d'aération, le film de Billy Wilder, mais tu as aussi Annie Cordy dans Le chanteur de Mexico avec Bourville. Enfin, tu as beaucoup de choses qui se passent sur la libération de la femme et surtout des héroïnes au cinéma. On n'avait pas cette habitude-là. Et Brigitte Bardot, comme Marilyn Monroe, ont libéré la femme de beaucoup de choses, même si elles étaient dans le cliché de la femme blonde, plantureuse et sexy. Mais c'était des rôles de femmes indépendantes. Et là, dans cette chanson Harley Davidson que tu as choisie, voir une femme motarde, d'habitude, la femme, elle est sur le porte-bagages et il y a le motard devant.
C'est pas elle qui
conduit,
ouais, c'est clair.
De libération aussi. C'est elle qui appuie sur le starter. C'est elle qui chevauche cet engin. Il y a aussi, bien sûr, un côté très sexuel dans l'écriture de Gainsbourg, mais totalement assumé par Brigitte Bardot, qui est une femme indépendante, qui a libéré la femme. Et Dieu créa la femme, c'est un film de libération. Les hommes ne sont là que pour la magnifier et à son service.
Hein. Et qu'il assume.
Il est avec nous en tous les cas donc pour deux spectacles, Voyage en comédie et la comédie Contre-attaque, c'est bien ça, je l'ai bien dit. Voilà, c'est un homme à la fois de scène, de radio et d'amour du cinéma, on le constate en voyant son spectacle. C'est notre artiste invité de la semaine, Thomas Croisière.
Un talent à découvrir, voire redécouvrir, Kitchenette, l'invité de la semaine.
Alors, je ne sais pas si vous l'aviez déjà entendu ou vu à la télévision, parce que vous en avez fait pas mal d'apparitions télévisuelles aussi. On en voit une à la toute fin du spectacle, d'ailleurs, très surprenante. Lucie, vous connaissiez déjà Thomas Croisière, vous l'avez découvert à travers ce spectacle, vous l'écoutiez, vous le regardiez peut-être ?
Alors moi, je l'ai découvert dans un film que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Les crevettes pailletées.
Ah mais oui, c'est vrai !
C'est vrai.
Très sympa.
La film. Meilleure 38e minute de l'histoire du cinéma, c'est ce moment où j'ai cette réplique « Attention à trois, tout le monde dit saucisse ».
Mais c'était vous, c'était vous.
C'était très drôle ce film d'ailleurs. Ouais. Donc je l'avais découvert là, j'écoutais quelques-uns de vos podcasts. En revanche, je ne vous ai pas encore découvert en one-man show sur scène. Mais j'ai un peu vu ce que vous faisiez pendant le Covid avec vos enfants, sur Instagram.
Bien sûr.
C'est un peu ça. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que je me suis dit, tiens, je devrais aussi à mon tour faire découvrir les vieux films. Parce que moi, je me suis arrêtée à Chaplin. Et il y a plein de films, genre Rabbi Jacob, tout ça, que j'aime beaucoup. Et que j'ai pas osé montrer à mes enfants, me disant, ça va être un peu décalé. L'humour,
alors,
voilà,
ça peut
on
être décalé,
tout à l'heure.
Mais il y a quelque chose que moi j'adore dans la comédie, c'est qui que tu sois, d'où que tu viennes, tu as ri devant un film de Chaplin que tu as évoqué, mais aussi devant un film de Louis de Funès. Donc il ne faut pas avoir peur de leur montrer. Moi, j'ai sacralisé un truc très jeune. Moi, j'ai grandi avec la télé et en particulier avec le film du dimanche soir. Avec mes parents, à l'époque, on n'avait pas de téléphone, on avait un seul écran dans la maison, hein, et on regardait en famille le film du dimanche soir avant de reprendre la semaine et d'aller à l'école le lendemain.
C'était Earth, Wind & Fire, c'est ça le générique ?
Earth, Wind & Fire.
Et ça commençait à 20h30
de films sinon rien, tu vois. Et ça commencé plus tôt. Ouais. Et quand j'ai eu des enfants, très vite, j'ai décidé que le dimanche soir était sacralisé et qu'on regardait un film ensemble. Et on fait ça depuis 10 piges maintenant. Et j'ai bien sûr montré les films que j'ai aimés. Donc il y a eu du Bébel, il y a eu bien sûr du Louis de Funès. Et puis je suis allé sur d'autres trucs, les Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Tu vois, c'est un film qui est encore très visuel, très burlesque et que tu peux leur montrer. Et alors on a un peu échangé hors antenne, tes filles ont 12 et 7 ans. Je t'encourage très vivement à leur montrer un film qui s'appelle Le Truman Show. C'est un film avec Jim Carrey qui parle de la télé-réalité et du rapport à l'image. C'est un gamin, Jim Carrey, qui est filmé depuis le début de sa jeunesse.
Mais elles vont pas comprendre ça.
Elles vont comprendre et c'est saisissant parce que moi je l'ai montré à mes enfants. Comme ça parle de l'image et du rapport à la réalité et eux ils sont tout le temps dans l'image. T'as pas besoin de sortir un téléphone pour que tes enfants posent déjà. Ils ont conscience de ça. Nous on n'avait pas du tout conscience
du
de ça.
Du rapport entre fiction et réalité.
Exactement. Je t'encourage. C'était une surprise. Moi je leur ai montré à 9 et 7 et ce que m'a raconté mon fils. D'ailleurs la chronique est toujours disponible sur France Inter. Vous tapez Thomas Croisière, Truman Show. Écoutez. Et moi l'ambition de cette émission c'était de donner envie aux gens parce que parfois on n'a pas les réflexes. On se dit on a fait les Disney, on a fait le tour. Non, il y a plein de trucs que tu peux leur montrer aussi bien.
Non, je leur ai montré L'Argent de Poche.
Ah, c'est génial. Et ce qui est essentiel, c'est de le faire avec eux. C'est-à-dire, moi, c'est un moment de partage. Et donc, quand ils ont des questions, je suis là pour répondre. S'ils ont peur, on désamorce. Si... Et c'est vraiment de, on regarde ensemble et on partage. Et tu vois, moi, j'ai arrêté de faire mes chroniques à la radio avec eux parce qu'un jour, au bout de 150 chroniques, mon fils aîné, à l'époque, il avait 11 ans, m'a dit, je veux choisir le film. Et il a choisi un animé qu'il avait vu sur Netflix qui s'appelle Je veux manger ton pancréas, dont je n'avais jamais entendu parler.
Bon programme.
Humour noir.
Comme très, non, mais c'est une très belle histoire d'amour, en fait, entre deux collégiens. Elle a une maladie du pancréas, elle est condamnée. Elle est pourtant très joyeuse, mais elle va mourir. On le sait dès le début. Elle tombe amoureuse, bien sûr, du beau ténébreux de la classe qui calcule pas, qui est désespéré, qui est sombre, qui est gothique. Et elle va lui transmettre sa joie de vivre avant de partir. C'est un film bouleversant. Cool. Et là, je me suis dit, mon travail, il est fait. C'est-à-dire que mon fils a choisi un film qui m'a montré et j'ai échangé les rôles. D'habitude, c'est moi qui faisais le lien avec des sonores de mes enfants qui parlaient des films. Et ben là, c'est eux qui ont parlé avec des sonores de leurs parents. La boucle est bouclée, la transmission est faite, on passe à autre chose.
Julia.
J'ai envie de dire une chose, justement à propos de cette histoire de héritage cinématographique, de transmission, c'est que mon père, c'est un grand cinéphile, il nous a montré des films, j'ai envie de dire, même trop tôt.
Oui, ça arrive.
Mais en fait, à un moment donné, je pense qu'il a dû se dire, je risque ça parce que j'ai envie de transmettre ça. Et moi, j'ai vu Barry Lyndon à l'âge de 8 ans. C'est un film de 4 heures quand même.
C'est risqué.
C'est très risqué. Très beau, pourtant, j'ai posé plein de questions, mais ses couleurs, et en fait, ça ravivait beaucoup de choses. Et à chaque fois, on regardait plein de films ensemble avec mon père, mais vraiment, même Orange Mécanique, très tôt.
Oula,
je
l'ai Orange
vu.
Mécanique, c'est
très risqué aussi. Bon, il y a des jolies couleurs aussi.
Le Shining et tous ces films, j'avais vu tout, très tôt.
Ah, il adore Kubrick, alors.
Ça vous donne envie de boire du lait.
Et tu verras, ce qui est assez marrant, c'est que le cinéma, en fait... Il y a un émetteur et il y a un récepteur. C'est-à-dire, le cinéma, tu regardes et en même temps, tu agis parce que tu apportes également ce que tu es. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir des films 20 ans plus tard parce que tu n'es plus la même personne et donc tu portes plus le même regard. Et c'est génial de changer d'axe et de revoir des films et de les vivre pas pareil. Le cinéma, mais c'est tellement ma passion. Je ne vais pas vous saouler plus longtemps.
Je ne sais pas si Julia, vous connaissiez Thomas ou pas, Thomas Croisière, mais peut-être que vous connaissiez son lointain cousin parce que Thomas Croisière, en anglais, ça se dit comment?
En italien, enfin.
Non, plus en anglais. Mais... Thomas, mes diminutifs, c'est Tom. Et Croisière, ça se dit comment?
Ah, Tom Cruise.
Alors, qui a, dans le spectacle, qui a tout piqué à l'autre? Dans le spectacle, c'est un mystère, finalement.
Alors, dans le spectacle, j'explique que c'est bien sûr Tom Cruise qui a dû faire français deuxième langue et qui a traduit mon nom pour devenir une star.
C'est ça.
Mais en vrai, c'était parce que je voulais participer à une émission qui était un télécrochet qui s'appelait Sous vos applaudissements. Et j'ai écrit sous mon nom d'état civil avec des photos de moi. Et je n'ai jamais été rappelé par la production.
Donc c'est l'émission de Jacques Martin, c'est ça.
L'émission de Jacques Martin, qui s'appelle Sous vos applaudissements.
Dimanche Martin.
Et j'étais un peu triste. Alors, je me suis dit, tiens, à l'époque, je me trouvais pas très beau, ce qui prouve que je manquais vraiment de lucidité. Et donc, je me suis dit, je vais plutôt envoyer des photos de Tom Cruise que je trouvais beau. Et je me suis dit, tiens, je peux pas réécrire sous mon vrai nom parce que j'ai déjà écrit sous mon vrai nom. Et donc, je me suis dit, tiens, Tom Cruise, c'est Thomas Croisière. Et c'est comme ça que j'ai envoyé des photos de Tom Cruise sous le nom de Thomas Croisière et que j'ai été pris dans l'émission. Et donc, c'est devenu mon identité sociale. C'est devenu mon nom sur les réseaux sociaux. sociaux, quand je fais de la radio. Et ce qui est très bien, parce que je fais tellement de bêtises en tant que Thomas Croisière, que quand j'ai des rendez-vous sérieux, c'est mieux que j'ai mon vrai nom. Parce qu'on ne va pas voir son banquier de la même façon qu'on va voir son public.
C'est
donc
vrai,
je suis très
pas
content, fou. Surtout en France, où on te met beaucoup dans des cases, tu vois, où tu, justement, si tu fais rire, tu ne peux pas faire de drame. Alors qu'aux États-Unis, ils ont cette culture de l'entertainment, où tu peux tout faire. Tu peux être le showrunner de Severance et en même temps faire des comédies potaches.
Comment est-ce que vous avez choisi les films justement de voyage en comédie parmi toutes les chroniques que vous avez faites? Comment est-ce que vous avez choisi ceux que vous montrez? Parce que vous les montrez pendant quelques secondes, mais il n'y a pas que ça. Hein. On vous voit refaire également des scènes de films avec des camarades qu'on va reconnaître aussi, voilà, avec qui vous avez fait de la radio. Quel film j'ai envie de faire découvrir sur scène?
En fait, je cherchais une clé d'entrée simple et qui parle à tout le monde. Donc, je suis parti du Splendide, qui est un référent pour toutes les générations.
Donc, il en fallait au moins
parce
un
que
ou deux. Ouais.
Sans le Splendide, bah, t'as pas tout ce qui est arrivé après. Hein, donc, c'est-à-dire Les Nuls, Les Inconnus, La Bande à Fifi. Et puis un autre qui est Louis de Funès. Donc, parce que qui qu'on soit, on a vu un film de Louis de Funès qui nous a fait marrer. Donc, je suis parti sur des références qu'a tout le monde, quel que soit ton âge. Et puis après, j'ai fait des digressions parce que, comme vous le voyez là, depuis qu'on passe du temps ensemble, j'ai vraiment l'esprit en escalier et on ne m'arrête jamais. Donc, j'ai écrit au fil de la plume et un film m'amène à un film qui m'amène à un film. Il n'y avait pas un truc très conscient. C'est mon cerveau qui a cheminé. Puis à un moment, j'avais 4 heures de spectacle. Je me suis dit, faut peut-être que je coupe un peu. voilà, j'ai pas eu envie de faire une James Cameron avec Avatar. Et donc, bah, je suis arrivé à 1h20 de spectacle avec cette frustration d'avoir dû faire des choix, bien évidemment, de rendre ça tout cohérent. Et c'est pour ça que je suis ravi de faire la comédie contre-attaque qui me permet d'aller plus loin.
Donc, Voyage en comédie, c'est le premier. Notamment, vous le retrouvez à Marseille et à Aix, entre autres. Je crois que c'est le 22 janvier à Aix, le 23 à Marseille.
Quelle bonne mémoire.
Et vous allez également jouer en Belgique. Ce sera en février, me semble-t-il.
Oui, je vais jouer deux fois. En Belgique, hein, deux fois.
13 et
voilà,
14.
Je suis très honteux d'avoir essayé de faire une imitation d'accent belge. J'embrasse le peuple belge que je viendrai voir les 13 et 14 février, pas très loin de Bruxelles. Et je suis impatient de découvrir ce public.
Et alors, ceux qui veulent découvrir le tout nouveau spectacle, la comédie contre-attaque, là, c'est à Saint-Étienne, c'est ça que vous jouez pour la première fois?
Oui, le 19 février.
Le 19 février.
Ce sera vraiment la première mondiale et je n'ai pas du tout avancé sur la mise en scène. Donc là, pendant un mois, ça va être un travail intensif avec mon metteur en scène Thibaut Hamelin, parce que je suis très content de ce que j'ai écrit, mais ce qui est important, c'est aussi d'en faire un spectacle. Et tu vois, maintenant, j'ai joué plus de 200 fois le premier. Il y a vraiment des moments de jeu où je m'éclate, c'est-à-dire où j'imite, où je danse très mal, où je chante. Voilà, il y a un truc très généreux que je veux retrouver dans le 2. Voilà, que ce soit un show. Peut-être qu'il y aura de la pyrotechnie et de la nudité, je ne sais pas encore, mais on va travailler.
Voilà, donc ce sera que des deux ou pas forcément, il y aura des surprises?
Alors, c'est pas que des deux, mais en tout cas, la logique de la suite, du sequel, du préquel, comment on raconte tout ça et comment parfois on fait des choses pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Tu vois, l'idée de départ est venue en fait, puisque tu as deux filles, de mes deux fils, parce que la question de la suite, elle est permanente dans nos vies.
Ouais, la transmission, c'est
donc
clair.
Moi, j'ai fait un fils qui s'appelle Alfred, puis 2 ans après, j'ai décidé de faire une suite qui s'appelle Gaston. Et on voit tout de suite, d'ailleurs, parce que j'ai une photo de lui où il est immonde, parce qu'il est ado, donc maintenant il veut plus qu'on le prenne en photo, donc à chaque fois il fait des sales têtes. Et là, je vois tout de suite que c'est pas une bonne idée de faire le 2. Et c'est de là que c'est venu.
Et on va retrouver donc un artiste que Giulia peut-être, car il est italien, figurez-vous, mais il a cartonné en France, dans le cinéma français. Et évidemment, vous le présentez également.
Ah, je vois de quoi tu vas parler.
Vous mimez même, je crois, sa démarche dans plusieurs films. C'est monsieur Aldo Maccione. Vous avez choisi, pour illustrer votre spectacle Voyage en comédie, de nous faire découvrir Aldo Maccione qui chante. Alors, c'est dans quel film?
Alors, non, mais c'est surtout un 45 tours qu'il a fait, qui s'appelle La Classe,
oui,
qui a été écrit par Sacha Distel. Et en fait, c'est cette démarche qu'on peut voir dans le film de Claude Lelouch qui s'appelle L'Aventure, c'est l'aventure, et qui va être un marqueur générationnel. C'est cette façon de marcher en roulant des mécaniques sur la plage. Et en fait, il y avait un réalisateur qui s'appelle Philippe Clair qui avait fait un film avec les Charlots, le premier film des Charlots, et il s'est fâché avec les Charlots. Les Charlots sont partis avec le directeur de la photo de Philippe Clair qui s'appelle Claude Zidi, et c'est là qu'ils ont fait les bidasses, etc. Et ce réalisateur, Philippe Clair, cherchait une bande d'humoristes de leur temps, et il est allé chercher Aldo Maccione et sa bande, qui était célèbre en Italie, pour faire un film qui s'appelle La Grande Mafia. Et c'est là que lui va exploser au cinéma français.
Si je suis distingué, si je fais très anglais, c'est simplement que j'ai la classe. Regardez ma carrure, regardez mon allure, regardez ma coiffure, la classe. J'ai un nez malicieux, un regard langoureux et un rire gracieux. Quelle classe, quand je me vois dans la glace, je me trouve formidable. Et je me dis que j'ai la classe, que je sois en chaussette, en caleçon, en bretelle, j'ai toujours ce qu'on appelle la classe. Que je me gratte la tête, que je fume une cigarette, que je mange des cacahuètes, la classe. Un amour c'est pareil, je sais côté sensuel, qui plaît à demoiselles. La classe, ce n'est pas de ma faute si je suis aussi beau. Et si tout le monde m'appelle Aldo, Aldo, la classe.
Bonjour, c'est les Charlots. Bonjour, c'est les Charlots. Ah, ma belle kitchenette, chichi. Ah, ma belle kitchenette, chichi. La kitchenette.
Ah, ma belle kitchenette.
Voilà le point commun entre Aldo Machion et les Charlots. C'est donc Philippe Clerc, hein, c'est ça, le papa de Esteban, c'est ça.
Absolument.
C'est ça.
Non mais
réalisateur.
Elle est formidable votre archive là, parce que cette émission n'est pas disponible en podcast.
Si on les a reçus, les Charlots, on les a reçus il y a 10 ans, tout à fait.
Et comment je peux la retrouver?
Vous allez sur kitchenette.fr, février 2016.
Je suis pas remonté jusque là.
Et donc vous entendrez Jean Sarrus, Richard Bonneau à qui on pense également, deux à qui on pense très fort, et Jean-Guy Fechner qui nous ont fait ce magnifique. Alors c'était après l'émission, hein, je le précise, hein, et entre-temps ils sont allés dévaliser un ou deux petits épiciers à côté de la radio.
Super, donc voilà. Je vais écouter, donc février 2016 en podcast.
Et donc c'était Aldo Machion, donc on voit Aldo Machion sur écran, comme beaucoup de comédiens, et on vous voit qui imitait Aldo Machion sur scène, c'est ça.
Oui, cette démarche. Non mais ce qui est marrant avec Aldo Machion, typiquement tu vois le film Plus beau que moi tu meurs, c'est le film préféré de Zinedine Zidane. Il y a eu une vraie grande tradition, d'ailleurs Jean-Louis Trintignant, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ont beaucoup tourné en Italie. Et ils ont beaucoup tourné avec des acteurs italiens qui sont venus ici, Anne Girardot,
oui,
dans Rocco et ses frères. Le cinéma français et italien se parlait. Et moi, ce que j'adore, c'est que tu vois, La Cage aux Folles est un phénomène au théâtre, plus de 2 millions d'entrées. Aucun producteur français n'ose y aller parce qu'ils se disent le sujet est un peu trop épineux, hein, l'homosexualité. Et finalement, c'est des producteurs italiens qui montent le film. C'est pour ça qu'il y a Ugo Tognazzi qui remplace Jean Poiret. Et c'est aussi pour ça que Ennio Morricone fait la musique de ce film, parce que c'est une coproduction franco-italienne. Et ça, le rire ensemble entre l'Italie et la France, c'est formidable.
Moi, j'ai tourné dans un film avec Ornella Muti.
Ah, superbe.
Et elle me racontait beaucoup ça. Elle était souvent en France, elle avait tourné avec Alain Delon, Gérard Depardieu.
Thomas Croisière, notre invité, j'en dédie que le cinéma, donc on a parlé des crevettes pailletées tout à l'heure avec Lucie, le cinéma, c'est aussi un rêve de continuer à en faire, pourquoi pas de réaliser un film un jour, ou en tout cas d'être sur les grands écrans vraiment, et pas à côté du grand écran sur scène, de rentrer dedans.
Alors tu sais, moi j'ai eu la chance de jouer pour Bertrand Tavernier, donc une fois que t'as fait ça, tu peux mourir tranquille.
Ah oui.
Et surtout j'ai joué pour Bertrand Tavernier parce que c'est moi qui lui ai offert la bande dessinée Quai d'Orsay. Et il a lu la BD dans la nuit, j'étais sûr que ça lui plairait.
Ah,
il a optionné la BD le lendemain.
Ça avoue qu'on doit le film Quai d'Orsay avec
absolument,
l'ermite.
Ouais, ouais, ouais,
ah, c'est dingue. C'est... Ça.
J'ai offert la BD à Tavernier. 6 mois plus tard, il m'a dit je l'ai lu dans la nuit, je l'ai optionné. Est-ce que ça te dirait d'avoir 2 répliques dans une scène de dîner? C'est là que je dis à la 58e minute bah non, il n'y a pas de pétrole en Palestine, mais l'Ouzbékistan, il y en a. C'est pour ça qu'il est copain avec les Ouzbékistanais de Taillard. Qu'après, t'as Raphaël Personas qui me parle. À droite, t'as Anaïs de Moustier. Et puis après, je fais et ton anti-acteur, il prend des anti-décisions. Donc moi, je suis au service de tous les grands réalisateurs qui voudront m'embaucher, mais j'ai ce côté Alain Delon, parce que je n'ai pas que le physique d'Alain Delon, qui à un moment disait j'ai joué pour Clément, Visconti, De Ray, donc c'est difficile après de descendre en gamme.
Oui. Donc la suite, ça peut être donc ce deuxième spectacle, et pourquoi pas
le deuxième spectacle, je suis très excité de cette aventure, parce que ce qui est cool avec le spectacle vivant, c'est que tous les soirs c'est différent. C'est ce qui fait qu'on est humain, c'est ce moment qu'on est en train de vivre ensemble, on ne se connaissait pas. Enfin, c'est super de vous rencontrer, de voir ce que vous faites, et comment vous vous investissez aussi pour partager de la culture et créer du lien, puis aller sur vos curiosités, tu vois, c'est marrant de sortir les titres chelous que vous avez, Kitchenette, votre promesse, c'est chouette ce que vous faites, donc continuez et continuons
de
faire société.
En termes de titres chelous, c'est pas fini.
J'imagine, je suis impatient.
Il y a une super rubrique après.
Oui, maintenant, je me tais parce que j'ai trop parlé, je vous laisse faire.
Mais j'ai l'impression que vous aimez mettre les autres à contribution. À la fin de votre spectacle, on va pas tout dire, mais à la fin...
Si les gens ont envie de monter sur scène pour vivre le moment, c'est moi, je suis monté sur scène pour la première fois à 47 ans, j'avais jamais fait ça. Et c'est un kiff. Et donc, je propose effectivement aux gens qui en ont envie, parce que j'ai pas envie de faire subir, comme parfois dans les spectacles de stand-up où t'es pris à partie et t'as tout juste pas envie qu'on te dise hey, c'est qui ta meuf et c'est quoi ton prénom et son métier, c'est ridicule. Moi, je dis si t'as envie de monter sur scène devant 300, 500, 600 personnes et de kiffer et de chanter, mais viens le faire avec moi. Moi, je le fais depuis 4 ans et c'est génial.
Et c'est ce qu'on va tester en live. Ce sera pas que votre live, ce sera notre live à nous tous. Alors,
ouais,
on va chanter.
Envie de chanter au micro, oui.
Tous ensemble, une chanson en live qu'on ne connaît pas, mais qu'on va découvrir. Chers amis auditeurs, pourquoi pas une prémisse d'un hard kitsch avec l'équipe de Kitchenette. Mais pour l'heure, puisqu'on en a parlé, c'est la rubrique immuable de l'émission. Et Thomas a aussi mis sa contribution exceptionnellement cette semaine. Bref, c'est la rubrique du hard kitsch.
Le hard kitsch. Les musiques qu'on ne vous diffuse pas en entier. Et pour cause.
Allez, chère Lucie, vous serez la première pour le hard kitsch, pour le coup.
Je suis toujours la première, Olivier.
Première sur la ligne de départ. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ?
Alors moi je suis restée un petit peu dans le cinéma, on a parlé tout à l'heure du Splendid, donc j'adore vraiment. Et en fait, il y a une chanson que beaucoup vont reconnaître, alors tu n'auras pas la rêve Julia, puisqu'on a parlé du Père Noël est une ordure et tu ne l'as pas vue, mais tu as peut-être vu Les Soudoués.
Ah, en vacances.
Tu as vu ? Et à un moment donné, il y a une chanson qui s'appelle Destinée, et à la base cette chanson, alors tu m'arrêteras peut-être Thomas, c'était l'air surtout de
Joe Dassin.
De Joe Dassin, tout à fait. Et on a refait un petit peu l'air pour payer les droits d'auteur.
C'est pas pour pas payer les droits d'auteur, c'est-à-dire c'est Vladimir Cosma qui va faire la musique des Soudoués en vacances, et le réalisateur Claude Zidi lui demande de lui écrire un slow, et là il pense à un gros tube de l'été qui s'appelle L'été indien, qui avait été chanté quelques années auparavant par Joe Dassin. Et d'ailleurs, c'est une musique de Toto Cutugno, un Italien qui avait d'ailleurs gagné le concours de l'Eurovision pour l'Italie dans les années 90. Et l'été indien, c'est ta-da-da, ta-da-da-da-da-da-da. Et il s'est dit, tiens, je vais le jouer à l'envers. Et c'est ainsi que ta-da-da, ta-da-da-da-da-da-da est devenu ta-da-da, ta-da-da-da-da-da-da. Et c'est Destiné, chanté par Guy Marchand.
C'est Destiné, mais alors là, comme on est dans le hard kitsch, évidemment pas chanté par Guy Marchand.
Oh, chouette.
Et il y a une autre chanson comme ça, hyper connue dans les Bronzés Fonds du Ski. Tu as la ref ou pas ?
Bronzés Fonds du Ski, oui.
Tu as ?
Quand te reverrai-je ?
Voilà.
Ah, c'est un mash-up ?
C'est pas un mash-up, hein ?
On était vraiment, vraiment destinés à écouter ça. On ne sait pas, finalement.
Ben, je ne sais pas. En tout cas, on était destinés à éventuellement l'écouter en entier sur Hard Kitsch ou pas, parce que c'est vrai qu'il nous plombe un peu, Christian. Il s'appelle Christian Félix.
Ah, ben Christian Félix, ce
comme
serait pas
Christian,
un
petit peu dans justement la scène des Bronzés.
Oui, et comme Félix dans Le Père Noël est une ordure aussi.
Exactement, quand il danse avec Pierre. Mais voilà, en tout cas, c'était un clin d'œil un peu cinématographique aussi, bien que voilà, c'était pas le pire Hard Kitsch qu'on ait déjà écouté ici.
Alors justement, vous nous avez parlé tout à l'heure, Lucie, de Brigitte Bardot. Harley Davidson, est-ce que vous savez quelle est t'es parti très loin avec sa Harley. Alors, je ne sais pas si elle roulait à l'éthanol ou si elle avait peut-être une bonbonne juste à côté pour remplir de l'essence. Mais elle a fait du chemin avec Gainsbourg aussi.
Bah oui.
Et figurez-vous que le Hartwich suivant...
Donc, je ne sais pas, elle prend la route, c'est ça?
Oui, elle est partie très, très loin, presque de l'autre côté de la planète.
Ah.
Toujours en Harley, figurez-vous. En japonais.
Bien sûr.
J'allais dire, il faut qu'on découvre. Okay.
Et j'adore la petite, le petit silence. Hop, oh, là, les Davids.
Avec le petit synthé.
Ouais.
Elle chante pas faux déjà, cette jeune femme.
Elle maintient bien le, entre guillemets, la rythmique.
Il n'est pas hard. Est-ce qu'elle est aussi sexy que Brigitte Bardot?
Ah, Naho, je ne sais pas. Est-ce qu'elle a les mêmes cuissardes que Brigitte Bardot? Est-ce qu'elle chevauche la Harley Davidson telle une Amazone comme Bardot?
Mais il y a une super compile qui était faite sur Serge Gainsbourg, chantée par des Japonais, que j'ai en CD quelque part chez moi, et il y a cette version.
Ah oui, c'est ça.
Donc il y a, bah oui, parce que beaucoup de chansons de chanteuses, en particulier d'actrices, ont eu une résonance internationale. Mmh. Tu vois aussi bien le dieu fumeur de Havane, etc. Et donc il y a un album de cover en japonais de chansons de Serge Gainsbourg que je vous encourage vivement à trouver dans une solderie quelque part. C'est un petit vice que j'ai et je l'ai fait tourner quelques fois sur ma platine.
En effet, Gainsbourg Made in Japan, ça s'appelait. Absolument. 1995, c'est tiré de cette compilation.
Mais yes.
Pardon. Elle a chanté en 95, mais la compile, excusez-moi, est sortie en 98. Par contre, il y a une deuxième compilation en japonais de Gainsbourg qui est sortie, avec notamment la reprise de cette chanson-là par Kenzo Saeki. Et la compile s'appelle tout simplement « L'homme à la tête de sushi ». C'est pas mal. Voilà, c'est sorti en 2023.
Il y a eu un brainstorm créatif.
Ah oui, voilà, ah, oui, ça. Allez, donc toutes les nouvelles chansons qui sont sorties, hop, ils les ont mis là-dedans, du coup.
L'homme à la tête
de sushi. On enchaîne avec Julia. Alors, est-ce que le Hartwich va nous chanter en quelle langue cette fois, Julia?
Bah, c'est très simple, c'est la 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 la. Mmh. Et c'est un auteur inconnu, mais c'est dans un film. Alors, on parle d'art, de kitsch, donc j'ai choisi un film hard. Ben voilà, c'est un des premiers films porno. Alors non.
Alors vous avez pris
1972,
le
1972, ça s'appelle Deep Throat.
Ah ok, gorge profonde,
voilà,
oui,
Lovelace.
Bien sûr.
D'accord.
Et bah voilà, j'ai choisi cette chanson parce que moi j'aime bien, ça me amène dans un,
ça vous
dans
amène
un
où,
délire
Julia
hypnotique un peu.
Moi ce qui m'inquiète par rapport à ce que tu nous as révélé tout à l'heure, c'est à quel âge ton père t'a montré ce film.
Oui.
Parce que si tu avais déjà vu The Shining et Orange Mécanique.
Alors,
à 10 ans.
Heureusement, c'est un ami à moi italien qui m'a dit, il faut que tu... Il s'est un passionné de musique et il m'a dit, il faut que tu écoutes toute la soundtrack, bande la bande originale de ce film. J'ai jamais vu le film, mais j'adore les musiques.
Vous avez pris le mot art dans le premier sens du terme.
C'est quand même rare qu'il y ait derrière de la musique. Ah non, c'est érotique comme film, là.
Non, c'est pas chic. Non, c'est pas très chic, mais c'est effectivement gorge profonde et ce principe de la gorge profonde.
Et les musiques sont en contraste.
Oui, oh, c'est très 70s.
Oui, il y a des petites voix au fond. C'est vrai que les paroles sont recherchées.
Oui, mais c'est un petit peu excitant. Il se passe quelque chose dans ce studio depuis que vous avez mis ce titre.
J'ai l'impression, oui, en effet, que c'est profond. C'est, effectivement, cette terre est profonde.
On imagine le fauteuil d'Emmanuel.
On est dans le...
72.
Non, c'est l'année 70. 72.
Ah ouais, début 72.
On est dans le fameux cahier des charges.
C'est un des premières, vraiment.
De l'émission.
Est-ce que vous serez dans notre cahier des charges, justement, Thomas, pour terminer ce hard kitsch? Dans quel sens vous avez choisi le mot kitsch et le mot hard? On ne sait pas. On reste, j'allais dire, pendu à vos lèvres. Non, mais à votre écoute, en tous les cas.
Je vous laisse lancer le morceau.
Ah. On peut le trouver?
Ah, je pense, oui.
C'est une espèce de Johnny Hallyday, ça, non?
Ah, il y a un petit peu de cette inspiration-là.
C'est un peu parodié, ouais, c'est clair.
Non, ouais.
Mais vous allez sans doute reconnaître la voix. Toi, peut-être pas, parce que c'est un grand acteur et réalisateur français. Et qui a été humoriste, qui a pour prénom Jean.
Faut qu'on trouve.
Et pour nom de famille, autre chose. Il va arriver.
Attends, on va essayer de trouver.
Un prénom.
Je ne sais pas qui tu es. Je ne sais pas d'où tu viens.
C'est profond, hein.
Je ne connais pas ton nom.
Jean. Yann. Et dans un film qui s'appelle Show Business, il a ce titre qui s'appelle Coït. Qui donc correspond très bien et se rejette parfaitement avec ta proposition.
Tout est en harmonie aujourd'hui. Il
faudra qu'on vous réexplique le mot.
J'adore ce titre. J'adore ce titre qui est un titre érotosoft.
Les deux, vous étiez un peu connectés tous les deux. En plus, j'ai failli hésiter avec Lucie Bardot à prendre Je t'aime moi non plus, ou c'est un petit peu quand même hard aussi.
Autant dire qu'on commence bien l'année 2026.
Ce studio est très chauffé. On pourrait peut-être un petit peu se dénuder.
C'est un peu moite, oui. Je vais commencer par délacer mes chaussures, je crois, tranquillement. Et ça, c'est sorti dans le commerce. C'était une phase B d'un disque. Non, c'est...
L'album qui s'appelle Show Business, le film s'appelle comme ça. Il y a cette chanson qui s'appelle Coït et que mes enfants détestent parce que moi, j'ai des playlists quand je conduis. Et ça, ils trouvent ça tellement gênant. Et ils trouvent que je suis un gros dégueulasse. Et des choses comme ça, mais moi, ça me fait rire.
Il y a quelque chose qui m'a intrigué dans votre spectacle, mais aussi dans vos chroniques. Alors, je ne sais pas si c'est un petit défi par rapport à la radio dans laquelle vous étiez. On a parlé de Johnny, vous arborez fièrement un autre chanteur.
Qui était très copain avec Johnny.
Qui était copain à une époque avec Johnny, Michel Sardou. Alors quelle est cette passion pour Michel Sardou? C'est une passion inavouée? C'est quelqu'un que vous souhaitez mettre en avant sur scène maintenant?
Non, mais c'est parce que je pense qu'on a, de toute façon, que l'on aime ou non Michel Sardou, on a tous une chanson de Michel Sardou dans notre vie, parce qu'on l'a entendu dans la voiture de nos parents, bah, tu vois, entre le lac de Connemara en fin de soirée ou La maladie d'amour.
Et
effectivement, je vole, effectivement. Écrite par Pierre Billon, son ami. Le principe, c'est que quand j'ai commencé à travailler sur France Inter, je travaillais avec un programmateur musical qui s'appelait Djoubaka, et je voulais faire un parallèle entre Michel Sardou et Joe Dassin, je ne sais plus pourquoi. Et je lui dis, combien de titres de Joe Dassin a diffusé l'année dernière France Inter? Et là, il va dans son ordi, il me dit 7 titres, ça, je fais super. Et je dis Michel Sardou, et là il me dit 0. Je lui dis, mais tu cherches pas dans ton ordi? Il me dit, non, Michel Sardou, on ne passe jamais sur France Inter, ce connard.
Mais attention,
vous êtes la radio de tous les Français, c'est pas normal. Et donc là, moi, en réaction, je me suis dit, tiens, dans mes chroniques, à chaque fois, pour les faire chier, je vais passer du Michel Sardou. Et puis j'ai tiré cette blague, tu vois, une fois, deux fois, trois fois, trois mois. Puis à un moment, je me suis dit, je vais arrêter de le faire, quoi. Mais il y a eu un tel tollé et une levée de bouclier, d'ailleurs, de Ali Badou, puisque je finissais toujours mes chroniques en disant, tous les chemins mènent à Michel. Et je me souviens très bien, il est 7h, je viens de finir ma chronique, je sors. Ali me suit dans le couloir, il dit, et tous les chemins ne mènent pas à Michel. Et je dis, écoute Ali, ça fait 6 mois que je tire la blague, on va peut-être passer à autre chose. Et elle me dit, ah non, tous les chemins mènent à Michel. Et donc j'ai créé ce monstre de Thomas Crozière qui adore Michel, et donc c'est devenu un rendez-vous, et donc sur scène, je continue cette cohérence, et j'ai un vrai plaisir à lancer le lac du Connemara devant un public de France Inter. C'est-à-dire là, t'as les gens en PLS, et même je l'ai fait devant Laurence Bloch, qui était la patronne historique de cette radio, et avec tous ses cheveux, je l'ai vu au premier rang, mais à la fois effaré et amusé.
C'est votre petit côté un petit peu rebelle, on peut dire, à la fois...
C'est mon côté crétin.
Ouais, qui
c'est
est
chouette,
tout gentil, crétin. Puis d'un coup qui pique au moment où on s'y attend pas, c'est ça qui est assez sympathique.
Ouais, enfin voilà, se marrer, tu sais, je suis le premier client de tout ce que je fais, donc tant que je me fais rire, c'est cool, et ce qui est marrant, c'est que quand tu te fais rire, t'arrives parfois à faire rire les autres. Donc voilà, et tout ça, en tout cas, est fait avec beaucoup, beaucoup de conneries et énormément de cœur.
La dernière rubrique de l'émission, le live de la semaine. Qu'est-ce qui se passe alors, Thomas? C'est une chanson de vous? C'est pas une chanson de vous? C'est une nouvelle chanson? On est interloqués.
C'est l'hymne de la comédie contre-attaque, parce que c'est toujours important de partager des choses. Et comme le but du jeu avec ce spectacle, pour moi, c'est à la fin de le jouer au Stade de France, j'aimerais que 60 000 personnes reprennent en cœur cet hymne, cette chanson qui s'appelle la comédie contre-attaque, qu'on va écouter, qui parle de la promesse de ce spectacle. Et c'est un tube absolument dégueulasse et imparable.
Vous allez chanter, et nous aussi, qu'est-ce qui va se passer?
J'espère au moins que vous avez gardé la piste son des vraies voix originales du titre.
Oui, sinon vous allez être obligé de chanter par-dessus.
Ah, mais moi je vais chanter quoi qu'il arrive par-dessus, mais est-ce que chanter est le juste verbe? On va plutôt dire beugler, baragouiner, mais je le ferai comme d'habitude avec cœur, et vous verrez, vous ne connaissez pas encore la chanson, mais ça va venir très très vite. Et si vous voulez taper dans vos mains, vous pouvez aussi le faire.
Ça c'est mieux.
Un moment dramatique.
Allez, place au drame avec Thomas Crozière en live dans Kitchenette, le premier live de l'année 2026 pour la 501e émission.
Oh, tu vois, il y a déjà de l'ambiance. Sous les lumières de Paris, la pluie fait son cinéma. Un
capitaine sourit déjà, l'histoire commence là. Il tend la main, il nous embarque dans son vaisseau de mots qui claquent. Préparez-vous, riez soldats, la bataille du rire est là. Allez, refrain. La comédie contre-attaque, rire en vrai, pas les chars qui claquent. Sur scène, un héros en frac, Thomas Croisière mène l'attaque. La comédie contre-attaque, le public vibre le dans ses faces. Quand l'humour prend tout l'espace, impossible de battre en retraite. Impossible de battre en retraite.
C'est des chorégraphies,
des histoires folles, des souvenirs, du rock'n'roll au grand délire. Chaque réplique est une étincelle, un feu d'artifice universel. Il nous embarque sans détour dans une croisade faite d'humour. Et tous ensemble on chante fort, la comédie gagne encore. Allez, re-refrain. La comédie contre-attaque, en rafale, clap qui claque. Sur scène, un héros en frac, Thomas Croisière mène l'attaque. La comédie contre-attaque, le public vibre le temps s'efface. Quand l'humour prend tout l'espace, impossible de battre en retraite. Le plus facile, impossible de battre en retraite. C'est pour eux, hein. Attention, le pont. Sous la pluie, la joie grandit. Un rire peut changer la nuit. Alors suis-moi, viens t'évader dans ce spectacle déchaîné. Allez, Stade de France, maintenant tu t'attends. Contre-attaque, rire en rafale, clac qui claque. Sur scène, un héros en frac, Thomas Croisière mène l'attaque. La comédie contre-attaque, le rideau tombe et rien ne s'efface. Car dans nos cœurs reste en partage. C'est comme Thomas Croisière, c'est la victoire du rire et du panache. La victoire du rire et du panache.
C'est pas formidable, c'est
bravo, Thomas Croisière et l'équipe de Kitchenette, bravo.
Écoutez, c'est la première fois que je le fais en live et je suis content de vous avoir fourni cette première exclusivité mondiale. Le clip est à retrouver sur ma chaîne YouTube et on est déjà à 204 vues. Je pense que le disque d'or est en chemin.
Qui a écrit et composé, c'est vous-même qui avez écrit et composé cette fabuleuse chanson ?
Eh bien écoutez, j'en suis effectivement officiellement l'auteur et le compositeur grâce à un outil merveilleux qui s'appelle l'intelligence artificielle. Et donc il y a eu un petit prompt à renseigner sur la comédie contre-attaque, le titre de mon spectacle, un peu ce que je vais raconter. On parle de comédie, il y a Thomas Croisière sur scène, blabla. Et puis derrière j'ai cliqué pour composer cette chanson, mettant à la façon de Trois Cafés Gourmands, parce que c'est très très kitsch. Et vraiment c'est très cheesy, à la fois brillant et lamentable, et donc ça me ressemble terriblement.
C'est votre voix ou pas ?
Bien sûr que non.
En tout cas, c'est Thomas Croisière qu'on a reçu pour le spectacle Voyage en comédie qui se joue encore le 22 janvier à Aix, le 23 à Marseille, en Belgique également, les 13 et 14 février et le 19 février en exclusivité, La Croisière contre-attaque, le nouveau spectacle. Et puis j'imagine d'autres dates qui tomberont au fur et à mesure sur
Je
vos réseaux sociaux.
Je te laisse le choix, comme d'habitude, dans la date. Tu le sais très bien.
Voilà, le choix dans la date. Ça aussi, c'était dans le signe Furax, non ?
Non, il n'est pas dans le signe Furax, mais il y en a quelques-unes très bonnes des contre-pées dans Signe Furax.
Oui, bon, on s'est tous auto-applaudis après le live, mais là, je propose qu'on applaudisse tous Thomas Croisière et qu'on leur remercie encore.
Merci à vous de m'avoir accueilli, d'avoir passé ce moment avec là. Je suis très frustré parce qu'on n'a pas eu le temps d'échanger tant que ça, mais c'était un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup.
On remercie donc toute l'équipe qui était présente. Merci beaucoup, Lucie.
Merci, Olivier. Merci, Thomas. Merci, tout le monde.
Merci beaucoup, Julia.
Merci.
Oui, parce que t'as pas remercié Julia. Il y a un petit truc compliqué entre vous deux. J'ai l'impression qu'il y a un peu de tension.
J'ai dit tout le monde. Oui, il y a un problème.
On a été ravis de cette première émission de l'année 2026. On revient en forme pour la deuxième très très bientôt. Et comme on vous le dit à chaque fois, évidemment, on vous aime.
C'est vrai, je vous aime.
Merci à vous. Et nous aussi, Thomas, on vous aime.
Avec beaucoup de rire.